Il aide le prêtre Élie, qui est presque aveugle. Il l'accompagne pour les sacrifices et les... Eh bien, moi, je pense à un enfant dans la Bible. Il s'appelle Samuel.
Raconte.
Depuis qu'il est petit, Samuel vit dans un temple. Il est confié à un vieux prêtre qui s'appelle Élie. Élie le prépare à être au service de Dieu.
Il y a des lits dans un temple?
Oui, pour Élie et Samuel.
Qu'est-ce que fait Samuel toute la journée dans un temple? À quoi joue-t-il?
Il ne joue pas. Il aide le prêtre Élie qui est presque aveugle. Il l'accompagne pour les sacrifices et les prières. Il allume les lampes qui brûlent toute la nuit. Un jour, au milieu de la nuit, Samuel est couché et il entend. Samuel.
C'est Élie qui l'appelle?
C'est ce que croit Samuel. Il se lève d'un bond et court vers Élie. Tu m'as appelé, me voici. Élie lui dit,
je ne t'ai pas appelé, va te recoucher.
Samuel retourne dans son lit et il se rendort. De nouveau, il entend. Samuel.
Encore?
Oui. Il se lève d'un bond et court vers Élie. Élie se fâche presque.
Recouche-toi, va dormir.
Samuel retourne dans son lit et se rendort. De nouveau, il entend Samuel. Il se réveille en sursaut.
Ça va durer longtemps.
Samuel court vers Élie.
Il le réveille encore. Qu'est-ce qui va se faire gronder?
Eh bien non. Cette fois-ci, le vieux prêtre comprend que c'est Dieu, le Seigneur, qui appelle. Il l'explique à Samuel et dit
« Si on t'appelle de nouveau, réponds. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
Est-ce que c'est vraiment Dieu qui appelle Samuel? Tu as bien dit que c'était un petit garçon?
Eh oui, Dieu s'adresse aussi à des enfants. Samuel est dans son lit et il entend de nouveau « Samuel, Samuel ». Il répond comme Élie lui a dit. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Et alors?
Alors le Seigneur dit à Samuel.
Je vais punir les fils d'Élie, parce qu'ils ne me respectent plus. Ils volent une partie des offrandes apportées au temple. Élie, leur père, les laisse faire.
Il est vraiment pas sévère, ce père.
Samuel reste couché jusqu'au matin. Il est effrayé. Mais c'est Élie qui l'interroge le lendemain matin.
Dis-moi tout.
Est-ce qu'il va dire tout cela à Élie?
Oui, il lui dit tout. Mais pour Élie, c'est dur à entendre. Pourtant, il répond.
Le Seigneur a parlé. Il fait ce qui est juste.
Eh bien, moi, je pense à un enfant dans la Bible. Il s'appelle Samuel.
Raconte.
Apparemment, ça recommence au début, donc. Vous avez reconnu, je pense, un passage du premier livre de Samuel qui nous parle de Samuel, enfant. Et j'aimerais avec vous peut-être lire quand même ce passage et me poser la question, mais comment est-ce que Dieu nous parle? On peut se poser plusieurs questions à propos de ce passage, de cette histoire qui nous a été racontée, mais j'aimerais voir avec vous cette question-là, comment Dieu nous parle? Donc, premier livre de Samuel, au chapitre 3. Non, après. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie était le sacrificateur à cette époque-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie. Et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie. Et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Je rappelle que Élie n'était pas le père de Samuel. Les parents de Samuel avaient confié le petit Samuel au sacrificateur Élie pour qu'il soit son maître à penser peut-être, mais aussi pour que Samuel soit son serviteur. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Je vais arrêter là ma lecture. Simplement, gardons en mémoire ce que Dieu va dire à Samuel, qui est donné dans la vidéo. Il va le charger d'un message pour Élie, en lui disant, « Tes fils font ce qui est mal et je vais les punir. » Et Samuel va devoir dire cela à Élie le lendemain. Tu peux mettre la première diapo? Peut-on entendre Dieu nous parler? Alors quand moi je lis ces récits de la Bible, je me dis souvent, ben, quelle chance ils ont eu, ces hommes, parce qu'il y a Samuel, mais il y en a d'autres, d'entendre Dieu parler ainsi. Moi, je me suis posé la question tout à l'heure, si Brigitte, c'est pas ce qu'elle a eu, une communication directement de Dieu. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé de décrocher mon téléphone et de dire « Allô, ici Dieu, voilà, je voudrais te dire ça et ça. » Pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi, non. Est-ce que c'est possible d'entendre Dieu parler ainsi? Ben, on a déjà la réponse à la question. Oui, puisque Karine nous l'a dit. Alors, c'est pas impossible, mais c'est rare. D'ailleurs, notre texte nous l'a dit, hein, c'était tout au début. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Mais je crois qu'elle est tout aussi rare à notre époque. Mais rare, ça ne veut pas dire jamais. Ça veut dire pas souvent. Est-ce que cela arrive encore aujourd'hui? Pas impossible, mais dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que Dieu leur avait parlé. Ou qui ont dit que Dieu leur avait parlé. Et que l'histoire de l'Église, l'histoire tout court, fourmille de gens qui ont entendu certaines paroles de Dieu et qui les ont retransmises et qui ont malheureusement donné naissance à bien des sectes, bien des divisions, bien des souffrances, bien des mouvements illuministes. Dans la Bible même, il est question de faux prophètes qui prétendent que Dieu leur a dit telle ou telle chose. Si vous lisez le livre de Jérémie, par exemple, vous verrez qu'il est très souvent confronté à des faux prophètes qui viennent dire le contraire. Lui, il dit aux gens, attention, votre conduite n'est pas droite devant Dieu, et Dieu va permettre aux Babyloniens de venir dans la ville et de tout saccager. Et retournez donc à Dieu, tournez-vous vers Dieu. Et d'autres faux prophètes qui disent, mais non, tout va bien, vous inquiétez pas, vous risquez rien, ici il y a le temple, et Dieu ne permettra jamais que le temple soit détruit, etc. etc. Pas impossible, mais délicat. Dans l'histoire de Samuel, vous l'avez vu, il a fallu du temps pour qu'on comprenne que c'était Dieu qui parlait. Ça n'est pas venu immédiatement. Il a fallu du temps et il a fallu que Samuel soit aidé par quelqu'un d'un peu plus expérimenté que lui, qui a fini par comprendre, à la troisième fois qu'on le réveillait au milieu de la nuit, pauvre Élie, qui a fini par comprendre, mais c'est Dieu qui parle. D'autres exemples dans la Bible nous sont montrés de personnes qui ont de la peine à comprendre ce que Dieu dit. Ou alors qu'ils le comprennent, et puis qu'ils l'oublient. Par exemple, si vous vous souvenez, acte 10, la façon dont Dieu va parler à Pierre pour le convaincre d'aller trouver Corneille, qui n'est pas juif, et de lui annoncer la parole de Dieu, et de rentrer chez lui, et ensuite de lui accorder le baptême. Pour que Pierre accepte cela, Dieu le prépare et lui envoie une vision. Une vision où il lui montre des aliments impurs et lui dit « il faut que tu les manges maintenant, parce que maintenant je les déclare purs ». Et Pierre est perplexe, on voit que ça met du temps à rentrer dans sa tête. Ce n'est qu'en entrant chez Corneille qu'il comprend ce que Dieu voulait lui dire. Et bien ce même Pierre, on a vu ça dans l'Épître aux Galates, dans nos études bibliques, ce même Pierre, il aura plus tard, et à un moment où il va oublier. Et il va de nouveau faire des différences entre les juifs et les non-juifs. Et Paul va devoir le recadrer. Je lui dis, écoute mon frère, là tu te gourres. Enfin, je ne sais pas si c'est ces mots-là qu'il a employés, mais... apparemment, il le dit de façon assez carrée. Délicat, si j'entends une voix au milieu de la nuit, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est mon inconscient qui parle? Est-ce que c'est, pourquoi pas, un démon qui veut m'envoyer sur une fausse piste? Est-ce que c'est mes désirs qui deviennent des réalités? Bref, usons de discernement. Et puis, dernier point, pas impossible, mais dérangeant. Parce que quand on regarde dans la Bible les gens à qui Dieu a parlé, en général, c'était pour les envoyer en mission, pour les envoyer faire quelque chose de pas facile. L'Éternel dit à Jonas, « Va à Ninive !» Imaginez, aller chez les ennemis, mais ils vont me trancher la gorge, mais ils vont me lapider, mais ils vont... Et encore pire, ils risquent de se convertir et tu risques de leur pardonner alors que c'est mes ennemis. Voilà qui est dérangeant. Et puis, sans aller plus loin, dans le récit de Samuel, c'est difficile quand vous êtes pris d'affection pour un vieux monsieur. Un vieux monsieur qui devient aveugle, mais un vieux monsieur qui représente pour vous l'autorité paternelle que vous respectez, que vous aimez, parce que à l'évidence Samuel aime Élie, d'aller lui dire « Dieu va punir tes fils ». Dérangeant. Du coup, on a moins envie que Dieu nous parle quand on voit les choses comme ça. dire après tout, je suis pas mal dans mon petit confort. Bon, écoute, Seigneur, si t'as vraiment rien de pressant à me dire, ça presse pas. Laisse-moi dans mon train-train. Alors, diapositive suivante. Comment Dieu parle-t-il? Parle-t-il aux hommes? Alors, directement, on l'a vu dans notre histoire, il peut parler dans leur propre langue. Le fait-il souvent? Probablement non. Le fait-il encore à notre époque? Je crois que nous avons tous lu des livres de témoignages de gens qui habitent dans des pays où la Bible n'est pas lue, où le christianisme n'est pas connu, et où des personnes qui ne s'y attendaient pas reçoivent un appel de Dieu. Je pense au livre « Dieu, j'ai osé l'appeler père » d'une pakistanaise, où Dieu se révèle à elle, et c'est seulement parce qu'elle a entendu cette voix qu'elle, elle va chercher, elle va essayer de se procurer une Bible, mais seulement dans un deuxième temps, parce que d'abord Dieu lui a parlé. Mais je ne crois pas quand même que ça soit très fréquent. Éliou, le compagnon de Job, vous savez, Job était dans la souffrance, et va lui expliquer que Dieu peut parler de différentes manières. On trouve ça dans Job 33, je vous le lis. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il fait des révélations aux hommes. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces révélations qu'il fait aux hommes? Alors, on lit la suite. « Afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. » Quelle sorte de révélation il peut faire? Il peut faire des révélations de dire « Stop, t'es pas sur le bon chemin. » Éliou continue. « Par la douleur aussi, ça se rapproche de ce que vit Job, hein ?» Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Ces deux moyens, je pense que Dieu les emploie certainement encore. Mais plutôt que des ordres directement compréhensibles, c'est plutôt des impressions, des suggestions que Dieu donne. C'est une communication qui nécessite une réflexion. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que Dieu m'éprouve? Pourquoi est-ce que ça ne va pas bien? Voilà, ça peut être le point de départ d'une réflexion. Alors il y a aussi des fausses pistes. La communication par les songes, la communication par la douleur. Je ne voudrais pas traiter à la légère la souffrance du peuple japonais. Mais je pense que dans chaque catastrophe, Dieu parle. Et Dieu avertit. Dieu avertit notamment l'homme orgueilleux, et ce n'est pas que les Japonais, hein, de son impuissance vis-à-vis de la création, de sa petitesse. Et je crois que c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux pour tout le monde, pas que pour les Japonais. Dans le livre du prophète Joël, Dieu explique que la catastrophe qui ravage le pays, à l'époque c'est des sauterelles et une sécheresse épouvantable, que cette catastrophe doit réveiller les consciences des gens. Et on trouve cette pensée en Joël 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Revenez à moi de tout votre cœur. » Il y a la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est mystérieux un peu la conscience. C'est quelque chose qu'on a au fond de soi qui n'est pas toujours d'accord avec nous-mêmes. C'est un espèce d'interlocuteur qu'on a à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas, c'est pas comme ça que vous le ressentez, vous? Hein, si? Hein? C'est comme ça que je m'explique qu'on a des psaumes qui disent « Mon âme bénit l'Éternel », comme si on était deux. Hein? Voilà. Paul dit aux Romains que l'œuvre de la loi est écrite, même pour ceux qui ne la connaissent pas, même pour les païens, dans notre conscience qui nous en rend témoignage, et que nos pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. On ressent bien un peu ce combat qu'on a quelquefois, et qui est un souvenir, je pense, de l'époque, lointaine époque, pas si lointaine, pour ma part 56 ans, où Dieu m'a créé à son image. Image peut-être un peu déformée par le péché, peut-être un peu refoulée par mes propres désirs, mais qui est toujours là. Dieu s'adresse à notre conscience. Alors, tout ça, ça reste un peu vague. Et à l'époque de Samuel et d'Élie, que sait-on de Dieu? Peut-être pas beaucoup de choses. Il faut peut-être que nous ayons la sagesse quand nous regardons la vie des gens qui nous est raconté dans l'Exode, dans les Nombres, dans les livres de Samuel, de penser qu'ils n'avaient pas toute la Bible pour leur parler de Dieu. Et que la connaissance de Dieu était peut-être très fragmentaire à cette époque-là. Et c'est pour ça que Dieu a voulu remédier à cela en nous donnant sa parole sous forme écrite. Tout ce qui a été écrit, dit Paul aux Romains, d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous sommes donc plus renseignés que Samuel sur qui est Dieu, sur que veut Dieu. C'est une richesse qu'il n'avait pas. À cette époque, sa connaissance était fragmentaire. D'ailleurs, on le dit, il ne connaissait pas Dieu. La parole de Dieu ne lui avait pas encore été adressée. Il était un petit garçon. Nous avons plus de renseignements. Et on voit, par exemple, quand vous lisez le livre des juges, ça m'étonne toujours dans le livre des juges, même des gens qui nous sont montrer en exemple comme des gens droits, on a vraiment l'impression qu'il y a des moments où ils ne connaissent pas Dieu. Enfin, leur conduite est vraiment bizarre. Enfin, je ne sais pas, moi, je suis peut-être sévère, mais quand je vois la vie de Samson, quand je vois les décisions de Jephthé, enfin bon, ça me fait... Bon. Et la parole de Dieu écrite, quelque chose, nous dévoile surtout la parole de Dieu vivante. L'homme qui a été appelé parole de Dieu, Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, je vous rappelle qu'on est toujours dans « Comment Dieu parle-t-il aux hommes ?»« Parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. » Et Pierre dit, cette la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est quoi la parole du Seigneur qui demeure éternellement? C'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Personne n'a jamais vu Dieu, dit Jean. Jésus, le Fils unique, nous l'a fait connaître. Il aurait pu ajouter, personne n'a jamais entendu Dieu. Enfin, personne, pas grand monde en tout cas. Jésus a été sa parole et il est encore pour nous. Pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu? Est-ce que ça vous tente d'être le frère de Jésus? Ou la sœur? Oui? Non? Non, ça vous laisse de marbre, j'ai l'impression. Oui. Jésus dit, « Mes frères et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà le mode d'emploi. Et puis, il y a le Saint-Esprit. Qui peut parler de la part de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme en lui? De même, personne ne connaît Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je vous ai lu un passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Le Saint-Esprit nous parle, Dieu nous parle. Et à qui va parler le Saint-Esprit? D'abord, il va parler au monde entier. Vous connaissez ce passage où Jésus dit, il annonce la venue du Saint-Esprit, et il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis, il parlera aux croyants. Quand il sera venu, toujours Jésus qui parle, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et comment est-ce qu'il nous parle? Je crois d'abord qu'il parle à notre intelligence. Il nous fait comprendre des choses. Et notamment, il nous fait comprendre ce que nous avons pu lire dans sa parole écrite, ce que nous avons pu comprendre de Jésus-Christ en tant que parole de Dieu. Et pour comprendre, pour que notre intelligence comprenne, il va nous la modifier, nous la changer. C'est ce que Paul explique aux Éphésiens. « Je demande, c'est une prière, que Dieu vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez. Et je crois que la plupart des croyants qui ont compris que Dieu les appelait à tel ou tel ministère, à faire telle ou telle chose, l'ont compris plus par leur réflexion que parce qu'ils ont eu un coup de téléphone de Dieu en disant « Il faut que tu ailles en Afrique, dans tel pays. » C'est plutôt un ensemble de choses, d'éléments, comme une pièce de puzzle qui se sont mis en place avec des faits, des réalités, et puis ce qui a été compris par la personne, éclairé par le Saint-Esprit. Et puis, il y a les dons de l'Esprit. Est-ce que Dieu parle individuellement? C'est ce que la Bible appelle la prophétie. C'est un don de l'Esprit qui permet à un homme de dire une parole venant de Dieu. C'est ce que Paul explique aux Corinthiens encore, au chapitre 12 de sa première épître. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pas pour l'enrichissement personnel, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don de guérison, le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Mais là encore, la Bible nous appelle à la prudence. C'est pour l'utilité commune que ces dons soient donnés. Et d'autres passages nous disent que si quelqu'un parle dans l'Église, les autres jugent. Jugent pas pour dire « Ah ben il a bien parlé », non. Jugent pour dire « Est-ce que vraiment ça vient de Dieu ce qui a été dit ?» Tout ça pour vous dire, mais ça vous le saviez avant que je commence à parler, c'est pas facile d'entendre toujours ce que Dieu nous dit. À chacun de discerner, comme dans notre petite histoire de Samuel, ça peut prendre du temps. Là, ça a pris une nuit, même pas. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour savoir ce que Dieu veut que nous disions. Diapo suivant. C'est l'avant-dernière. Qu'est-ce que Dieu va nous dire ? Alors j'ai marqué « Voici le destin du monde » et je l'ai barré. Nous avons dans notre Bible une révélation et qui a été donnée aux apôtres et prophètes une fois pour toutes. L'épître de Jude qui nous dit ça au verset 3. Et nous n'avons pas à connaître ce qui est caché. Ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est aux hommes. Est-ce que vous connaissez David Wilkerson? Ça vous dit quelque chose, David Wilkerson? La croix et le poignard, oui. Quand vous lisez La croix et le poignard, vous avez le témoignage, les aventures de David Wilkerson et surtout de cette œuvre immense d'évangélisation qui s'appelle Teen Challenge, ou qui a commencé parmi les gangs de New York et qui s'est ensuite diffusée, je pense, un peu sur la terre entière. David Wilkerson, c'est vraiment un homme qui a été à la base d'une action de Dieu dans des milieux très difficiles, avec beaucoup de puissance, beaucoup de force. Je crois quand même qu'il a fait un énorme faux pas. Il a reçu, semble-t-il, du moins c'est ce qu'il dit, des révélations sur l'avenir du monde. Voilà, ça va se passer comme ça. Et je crois que le faux pas qu'il a fait, c'est de l'écrire et de le publier. Et que depuis, il y a des gens qui disent « Oui, oui, ben ça va se passer comme ça, puisqu'il le dit. » Et je crois qu'il est toujours dangereux de rajouter aux Écritures quelque chose qui n'y était pas au départ. Nous n'avons pas à connaître autre chose que ce que la Bible nous dit. C'est caché pour Dieu. Pas plus que Dieu ne nous révélera notre avenir. Je n'ai pas à prendre ma Bible comme si c'était un horoscope en disant, tiens, aujourd'hui, je prends mon crayon, tac. Il y a marqué, Dieu dit au roi, va vers le midi. Bon, ben d'accord, je vais à Marseille aujourd'hui parce que c'est marqué. Voilà. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Mais Dieu peut nous dire, nous donner une conviction que nous devons dire quelque chose à quelqu'un. Que quelque chose, que telle personne doit faire ceci. Et je pense que dans cette église ici, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu la conviction que Pierre-Yves serait le pasteur de notre église avant même que Pierre-Yves l'envisage et le sache. Et voilà, ça c'est quelque chose que Dieu a mis. Alors, je pense que quand Pierre-Yves a eu vent de ce genre de choses, au début il a dit « n'importe quoi ». Et puis peut-être que quand une deuxième ou une troisième personne ont pu peut-être dire les choses, il a peut-être fait un peu comme Élie. Dire « attends, mais c'est peut-être Dieu qui parle quelque part ». Enfin, je ne sais pas comment ça a tourné dans sa tête, mais enfin, toujours est-il qu'il est pasteur maintenant, hein. Mais c'est surtout, je crois, une révélation qui nous engage nous-mêmes. Le plus souvent, un appel à faire telle ou telle chose. Et un appel qui, comme Samuel, comme Jonas, comme Pierre, comme Paul, va être souvent dérangeant. Je crois que quand Dieu nous appelle, quand Dieu veut nous parler pour nous dire quelque chose, c'est rarement pour nous dire « ouais, c'est bien, continue comme tu fais, t'inquiète pas, tout va bien ». C'est plutôt pour dire Et est-ce que tu as pensé à ça? Et est-ce que telle personne, tu vas la laisser dans la misère? Et est-ce que telle situation, tu ne peux pas t'en occuper un petit peu? Et peut-être que quelquefois, nous nous réveillons un matin ou nous prenons conscience à un moment de la journée que Dieu nous demande de faire quelque chose. Alors, on obéit ou on n'obéit pas, ou tout de suite, ou plus tard, ou on fait comme Jonas, on part de l'autre côté. Dernière diapo. En pratique, comment comprendre ce que Dieu nous dit? D'abord, être prêt, en étant proche de lui. Samuel, il est dans le temple, dans la présence de Dieu, et il est disposé à écouter. De temps en temps, on chante un chant qui dit « Seigneur, je t'écoute, Seigneur, parle-moi, montre-moi la route ». Oui, c'est bien de chanter. Est-ce que nous réalisons que quand nous chantons ça, on peut avoir Dieu qui nous prend au mot « D'accord, tu m'écoutes ». Bon, ben écoute, voilà. Quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, comme Abraham. Est-ce qu'on est prêt à entendre ça? Moi, il faudra que Dieu me le répète plusieurs fois si c'était le cas, je vous dis franchement. Donc, être prêt, être proche, être patient. Être patient parce que, on l'a vu, là, il a fallu que Dieu appelle 4 fois, si j'ai bien compris. Les 3 premières fois, on n'a pas conçu que c'était lui qui parlait. La 4e, il a dit 2 fois, Samuel, Samuel. Être patient. Savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et si on ne comprend pas tout de suite, il nous redira. Et il peut nous le dire aussi par des frères et sœurs. Ici, on voit que c'est Élie qui joue le rôle de conseiller. Il est difficile de comprendre la voix de Dieu tout seul, je crois. Ne pas avoir peur lorsque on croit saisir quelque chose, peut-être de demander de l'aide, de demander un avis. Il écoute, j'ai l'impression que le Seigneur m'envoie pour évangéliser en Antarctique. Est-ce que tu crois que j'ai bien compris? Voilà. Les frères et sœurs peuvent être des prophètes, peuvent être des juges, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a du discernement, et nous aider donc à discerner ce que nous avons cru comprendre. Là, c'est l'utilité des dons de l'esprit pour l'utilité commune. Et puis tout ça, c'est basé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Dieu ne va pas nous dire quelque chose qui est l'inverse de ce qu'il est. Si je crois discerner dans ma tête que Dieu m'invite à aller, à prendre les armes et aller trucider tous mes voisins qui sont d'épouvantables païens, probablement, je n'ai pas bien compris. Ce n'est pas ça que Dieu me demande. Parce que ce n'est pas ce que Dieu est. En connaissant Jésus. Jésus qui a été celui qui a aimé par-dessus tout, ne peut pas me demander d'être porteur de haine, porteur de discrimination, porteur de mort. Il ne peut que me demander d'être porteur de bonté, d'amour. Et toujours réfléchir. Dieu nous a donné une cervelle, c'est bien. On peut l'appeler intelligence, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler réflexion, compréhension, éclairée par l'Esprit Saint. Tout ça, c'est nécessaire. Prudence, discernement, patience. Et j'aimerais juste une dernière phrase, la vraie foi. La vraie foi, elle est là. Elle est aussi éloignée de l'incrédulité que de la crédulité. Ne croyons pas tout, y compris tout ce qui nous passe dans la tête comme impression, mais portons tout ça devant le Seigneur et demandons-lui par son esprit de nous éclairer. Est-ce que c'est bien ça, Seigneur, que tu m'as dit? Est-ce que c'est bien ce que tu attends de moi? Après, Une fois qu'on a compris,